les 10 caractéristiques d'une église forte dans l'épreuve. Alors, je ne suis plus pasteur de l'Escale depuis bien des années, je ne suis plus pasteur d'une assemblée ou d'une église en particulier, je suis pasteur itinérant, je suis prédicateur pour une mission qui s'appelle Portes Ouvertes, et je reprends ici quelques notions fortes de ce que veut dire être l'église avant l'été, quand on fléchit un peu comme à la fin du chapitre 40 d'Ésaïe, il semble que les forces nous manquent. Je ne sais pas comment vous vivez votre mois de juin. Moi, quand j'arrive à l'été, en général, les forces me manquent. Je commence à défaillir et j'ai besoin de vacances. Alors, je suis encore ici vaillant et je pars bientôt, mais je me réjouis d'être en vacances, franchement. Les 10 caractéristiques d'une église forte dans l'épreuve. Parce que l'église persécutée nous enseigne, elle nous donne des leçons de vie, de bravoure, de courage, de persévérance et de foi. Nous, on fléchit parce que nos vies sont compliquées aussi. Eux restent debout parce que la vie est tellement rude qu'ils doivent absolument rester veillants, priants et dans la persévérance d'une foi bouillante. Sinon, la vie est vraiment trop rude. Alors, leur message, qui sera celui de la parole de Dieu ce matin, mais leur message nous vient très fort à cœur quand on pense à leur réalité, qu'on lit la parole aussi avec leur regard, leurs lunettes, leur actualité. On pense bien sûr à l'Ukraine, mais nous travaillons dans 70 pays du monde, là où 360 millions de chrétiens sont persécutés à longueur d'année. Et ce n'est pas le fait de 4 mois de guerre, c'est le fait de décennies, là où la persécution fait rage. Elle est devenue systémique, systématique, et elle est même ancrée dans la politique des gouvernements qui sont hostiles à la foi de ces chrétiens. Mais lisons le texte qui va nous réjouir, parce qu'il est porteur d'une bonne nouvelle, ce texte. Oui, le Christ nous a sauvés, oui, nous sommes libérés du péché, et avec le salut du Christ ressuscité, il y a un don, il y a un cadeau qui nous avait été promis, qui a fait déjà tout son effet dans l'Église de Dieu depuis la Pentecôte, mais qui continue à être la fierté et la force de nos vies, nous qui sommes les disciples du Christ ici aujourd'hui en 2022. Alors acte 2, 37 à 47, c'est peut-être un texte que vous avez lu il y a quelques semaines en arrière lors de la Pentecôte. Je sais que Jean-Jacques a enseigné sur les dons spirituels et le Saint-Esprit ce semestre ici à l'Escale. Alors voyons un petit peu les effets du Saint-Esprit sur le groupe que nous sommes, sur l'Église rassemblée, sur le collectif plutôt que sur l'individuel. Acte 2, 37 à 47. Après avoir entendu ce discours, de quel discours s'agit-il? Celui de Pierre. Pierre qui courageusement prend la parole et annonce que ce Christ que vous avez crucifié a été fait Seigneur et Messie. Le Pierre qui avait renié son Messie, son Seigneur, plein du Saint-Esprit, ose prendre la parole et fait un discours tonitruant qui marque l'histoire. Et ces Juifs qui avaient crucifié le Christ, il nous est dit ici, il nous est rapporté qu'ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » En effet, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération pervertie ». Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 personnes. À partir du verset 42, se déploie l'effet de la Pentecôte. Le don reçu d'en haut, la promesse du Père, le Saint-Esprit a de l'effet dans la vie du croyant personnellement, mais en Église aussi, surtout quand on a besoin de rester vivifié, fort et persévérant. Ensemble, verset 42, on lit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux par l'intermédiaire des apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient ensemble, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins. Chaque jour, avec persévérance, ils se retrouvaient comme un accord au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qu'il sauvait ou ceux qui étaient sauvés. Merveilleux temps d'un réveil exceptionnel qui a marqué l'histoire, la Pentecôte. Si Luc, non pas le pasteur dont je suis le frère, mais si l'évangéliste Luc nous rapporte ses propos, lui qui écrit les Actes et qui a précédé ce livre de son évangile, si Luc se plaît à nous rapporter les faits de la Pentecôte et les faits de la réception de ce don extraordinaire, celui du Saint-Esprit, c'est pas pour nous dire vous allez devenir personnellement comme des super-héros. Vous savez, mes gamins, ils regardent, enfin, ils sont un peu grands, mes gamins, je vous rassure, ils regardent certains Marvel, des films de super-héros. C'est assez bien. Moi, je les ai découverts grâce à mon fils, je connaissais pas du tout. Moi, j'en étais resté à James Bond, vous voyez. Mais les Marvel, c'est autre chose. Ah, j'en suis venu à les aimer, hein. C'est rapicolant, c'est incroyable. On se prend en jeu, on se dit, mais c'est super pouvoir, c'est quand même génial. Il y en a un qui a des ailes comme ça, il vole, c'est pas permis. Un Spider-Man qui attache et qui se dandine dans les villes comme un dingue. Ils ont tous des dons exceptionnels, les uns et les autres. Alors peut-être est-ce nous rappeler ce que Jean-Jacques vous a enseigné ce semestre. C'est que le Saint-Esprit ne fait pas de nous des super-héros. On ne transcende pas comme ça la moyenne de l'humanité par des dons qui font de nous des idoles, des dieux ou des semi-dieux. Mais nous recevons une puissance malgré tout qui fait de nous, de chacun d'entre nous, un lieu saint pour Dieu, un aéroport pour sa présence, une piste d'atterrissage pour l'asmada du ciel. Vous savez, en Israël, je serais précédé par Joe Biden qui arrive sur place à Ben Gurion ces jours, et déjà les Américains ont déployé des super-hélicoptères, des blindés en grand nombre. C'est incroyable, hein, quand le président américain vient fouler le sol d'un pays étranger, vous avez l'armée qui débarque la semaine avant. C'est impressionnant. Donc Ben-Gourion, c'est une place forte. Là, l'aéroport de Tel Aviv, c'est une place forte pour l'armée américaine parce que le grand Joe Biden, on pourrait dire l'empereur de l'Occident, débarque en Terre Sainte. Alors, toute proportion gardée, moi je crois que nous ne sommes ni des Joe Biden, ni des super-héros à la Marvel, mais nous sommes une place que Dieu fortifie. Nous sommes des héros pour le Saint-Esprit, des envoyés pour la cause de l'Évangile. Et nous avons à relever la tête quand les temps sont troublés. Nous avons à nous garder de la dépression, de la déprime ou du fléchissement de notre volonté. Dans le Saint-Esprit, nous relevons la tête, nous partons courageux vers la victoire parce que le Seigneur fait de nous ses ouvriers qualifiés et remplis d'une puissance qui n'est pas la nôtre. Nous ne sommes pas des super-héros, mais quand même, il y a une puissance héroïque, celle du Christ victorieux, vainqueur, ressuscité, qui habite chacun d'entre nous par son Esprit Saint. C'est pour ça qu'il peut nous envoyer dans la mission, dans la moisson. C'est pour ça qu'il peut avoir cette confiance en chacun, en chacune et en son peuple rassemblé. C'est que nous le représentons, pas de notre grande intelligence, pas de nos capacités particulières, même s'il y a sûrement au milieu de nous des gens impressionnants, dont le pédigré, comme ça, pourrait être mis en exergue et loué, des vertus d'une nature humaine particulièrement douée, peut-être. Mais quant à moi, quant à, je pense, la majorité, nous sommes des hommes, des femmes tout à fait simples et modestes. Mais nous avons à louer le Seigneur parce qu'il a posé son regard sur nous, il nous a sauvés et il nous a remplis d'une puissance tout à fait incomparable, même si c'est encore que le début, les prémices, c'est pas le tout, c'est déjà bien suffisant pour faire son œuvre et faire comme Jésus nous a commandé. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà la mission de l'Église à la Pentecôte, c'est être une Église qui témoigne du Christ. D'ailleurs, le Christ ajoute chaque jour à ses rangs, à son nombre, ceux qu'il sauve. Et puis, il y a d'autres réalités, il y a d'autres éléments qu'il faut mettre en évidence dans la capacité du Saint-Esprit à fortifier non seulement nos vies, mais notre collectif, nous ensemble, l'Église. Alors une Église forte dans la tempête, une Église qui résiste à l'épreuve, une Église qui se lève quand tout pourrait faire en sorte de lui demander de s'asseoir, c'est une Église qui fait l'expérience quotidienne de la puissance du Saint-Esprit. Alors je ne sais pas quelle est ton expérience de cette réalité quotidienne de la présence de Dieu. Camille, tout à l'heure, dans le bureau pastoral, quand on priait, elle louait le Seigneur déjà, en disant, mais Seigneur, tu es là, tu nous précèdes, il suffit qu'on s'ouvre à toi, et tu... Hop ! L'atterrissage en douceur, hein ? Air Force One. Les blindés du Saint-Esprit, la puissance de Dieu à l'œuvre. Là, hop, il suffit de dire, c'est bon, aéroport ouvert. Descends, Seigneur, je suis prêt à t'accueillir. Et le Seigneur vient. Quelle est mon expérience de la puissance de Dieu ? Cette puissance tranquille, cette force de paix, d'amour, de sagesse. Est-ce que je marche avec le Seigneur tous les jours ? Peut-être est-ce pour certains le fruit d'un effort, ou peut-être certains se méfient-ils de devoir trop en faire avec le Seigneur. Si j'ouvre mon cœur à Dieu, si je mets du temps à part pour lui, je vais trouver ça peut-être frustrant parce que mes attentes ne seront pas satisfaites. Je vais trouver peut-être ça ennuyeux parce que je ne trouverai pas cette présence chérie de Dieu. Peut-être certains d'entre nous se sont-ils lassés d'ouvrir tout bras ouvert leur aéroport au Saint-Esprit parce qu'il était en stand-by et semblait ne pas approcher la piste. Mais si nous sommes nés de nouveau, nous avons goûté à la bonté du Seigneur et nous avons de cesse que de revenir d'un cœur humble et joyeux dans la présence de Dieu pour y goûter. Et l'expérience que nous faisons de Dieu n'est pas nécessairement toujours tactile ou, j'allais dire, sensuelle. Ce n'est pas une émotion qui est charnelle. Parfois, dans la prière, tu vas aller dans ton lieu secret, dans ta chambre close, tu vas fermer la porte derrière toi, tu vas passer un temps dans la prière, tu vas louer ton Dieu, tu vas le faire, c'est un peu le sacrifice de la louange, tu vas le faire coûte que coûte, tu vas lever les yeux et tu vas dire « Mon Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié », sans rien ressentir de particulier. Mais quand tu te redresses, ne fais-tu pas l'expérience d'Ésaïe 40, fin du chapitre ? N'as-tu pas comme un renouveau de vie, un regain d'énergie, un regard transformé ? Là, tu peux dire, je vois les yeux des passants et je me réjouis. On a chanté ce chant-là, dans la rue, tu es là, etc. Je vois les yeux d'un passant, tu es là. Humainement parlant, non. Quand je vois certains passants, certaines caissières ou certains serveurs sur la terrasse d'un restaurant apprécié, je ne vois pas une lumière particulière de gentillesse, de bonté. Voilà. Parfois, pas du tout. Même tout le contraire. Mais quand le Saint-Esprit m'anime, quand je suis renouvelé dans la présence de Dieu, quand ma communion personnelle avec Dieu est réalité quotidienne, alors oui, mon regard change. Même ceux qui n'auraient pas eu mon attention deviennent des gens à qui j'ai envie de parler. Il y a l'abbaye dans mon village, il y a le culte ce matin avec fanfare et trompette, etc. Je suis ici parce que j'ai accepté de remplacer Luc. Voilà, peut-être croiser les agendas un peu à la va-vite. Mais enfin, à l'abbaye, vous savez, on boit, la musique est tellement forte le soir qu'on n'entend rien. À table, hier soir, je dis avec des voisins, on se criait quelques mots pour être en relation tellement la musique était forte. Et pourtant, j'y étais parce que j'étais convaincu que si Jésus avait été au village, il serait allé au bal avec sa bande. Il serait allé là où les gens sont pour montrer sa présence, son amour et sa puissance. Arborons le fruit de l'Esprit dans nos vies et ne soyons pas timides, gênés, embarrassés d'être qui nous sommes dans ce monde. Nous avons plus à offrir que ce que le monde croit bien. Ne perdons pas notre courage, notre fierté d'appartenir au Christ. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Et ça, c'est des notions que Jean-Jacques vous a sûrement rappeler et enseigner, Galates 5, 22. Alors, 10 caractéristiques, j'en suis qu'à la deuxième, et je vous rassure, ça va aller plus vite. Ouais. En général, je prends mon temps, moi je suis comme un gros porteur, pour reprendre l'image de l'aéroport, il faut un peu de temps au décollage, mais ensuite ça avance. Une église qui fait l'expérience de la communion du corps de Christ. Alors, c'est ce que nous sommes là ce matin, c'est qui vous êtes ici à l'escale, il fait chaud, il y a du grand soleil dehors, mais vous êtes venus pour être proches les uns des autres. vous êtes venu pour louer le Seigneur, pour partager peut-être le repas du Seigneur. Non, ce ne sera pas le cas ce matin. Prenez-le dans vos maisons, pourquoi pas. Prenez-le avec une amie, invitez-vous à midi. Prenez le repas avec joie, simplicité de cœur et partagez la scène entre vous, pourquoi pas. C'est tellement bon de faire appel au Seigneur et de nous souvenir de qui il est dans la prière et dans la communion fraternelle. Alors pour les chrétiens persécutés, bien sûr, la communion, elle ne va pas juste au gré de la météo. Ah, ce matin, je vais au culte. Non, j'y vais pas. Ce matin, je me sens fatigué, je reste au lit. Ce matin, il fait un peu beau, je vais aller marcher. L'escale ici, le plafond là, il est tellement chaud, on cuit. Peut-être pas ce matin. On a besoin de la communion, on a besoin des frères, on a besoin du corps, on a besoin de la prière, du « nous ». Et on y va, au péril même de nos vies. On ne compte pas l'effort, on sait qu'on en dépend de cette communion-là. Et les frères et les sœurs qui vivent la persécution sont appelés à la loyauté, à la fidélité, à l'encouragement, parfois même jusqu'au don de leur propre vie. Une église, troisièmement, qui connaît la Bible, et qui est capable de l'employer. Alors écoutez assidûment, on l'a entendu, hein, c'est un fruit de l'esprit, d'être à l'écoute de la parole, persévérer dans l'enseignement de la parole. Là aussi, communion personnelle avec Dieu, quotidienne, pas quotidienne, régulière, à peine, fléchissement. Hein, nous, en Occident, notre grande tentation, c'est de laisser aller, hein, c'est de nous endormir, nous assoupir. Mais il revient, vous savez. Vierge folle, vierge sage. Comment tu veux être à son retour de ceux qui sont écrasés de fatigue? Ça, c'est notre lutte à nous. Il faut rester dans la foi, il faut rester vivifié, il faut persévérer. Ça, c'est notre lutte, parce que personne ne nous jette de pierre, personne ne cherche à nous couper la tête, mais nous avons une société de loisirs et de consommation qui nous endort. Oh, la foi est devenue tellement inutile. Pourquoi aller à l'église? Pourquoi prier, frère? Pourquoi donner? Alors, il nous faut persévérer, parce qu'il en va de notre état au retour du Christ. Vous savez ce que je veux dire? Comment te trouvera-t-il avec l'habit de travail, fier de l'ouvrier qui est au travail à son retour, ou te trouvera-t-il endormi, parce que l'huile, bon, tu as dit, c'est pour demain. Rappel à chacun, petite piqûre de rappel, hein, ce n'est pas la quatrième dose, celle-là, on s'en passe volontiers, mais c'est une piqûre de rappel spirituelle. Où en suis-je dans mon carnet de vaccination, mes rappels avec le Saint-Esprit, ma vie spirituelle? Suis-je à jour? Je pars pour le grand voyage bientôt. Hein. Je pars pour le ciel un jour, parce qu'il revient. Mon livret sera-t-il à jour? Mon cœur est-il en état? Trouvera-t-il un ouvrier fidèle, disposé à lui plaire, saint, loyal, qui persévère? Je pose les questions qui dérangent, mais c'est des questions que je me pose et que je nous pose en tant qu'Église. Mémorisation du texte biblique. Alors, bon, il y a des gens qui sont extrêmement capables dans des cultures lointaines, les cultures où l'oralité fait encore autorité. Ici, nous, on est tellement portés sur le visuel qu'on n'est plus capable de mémoriser même un numéro de natal. Je me trompe, une adresse email, ça devient compliqué. Donc, j'exagère un peu, mais enfin, chantons ou connaissons les grands récits de la Bible. Sans savoir des textes par cœur, mais si vous le faites, chapeau et bravo. Mais mémorisons le texte en chantant. La louange au Seigneur est pleine de cantiques. Les cantiques sont pleins de la parole de Dieu. Fredonnons, louons le Seigneur à tue-tête ou en secret dans nos cœurs. Mais c'est une bonne manière de nous rappeler l'Écriture, la parole qui édifie nos vies. Une église qui prend, quatrièmement, l'évangélisation au sérieux. Alors, à l'escale, je sais qu'on le fait, on va dans la rue, on fait quartier libre. Luc est un pasteur entreprenant, c'est absolument super. Est-ce qu'on est encore au clair avec le fait que cette société va à sa perte, que ce monde court à sa fin sans le Christ, que le salut, il n'y en a pas d'autre, sinon par le Christ. Hier, nous étions à Berne avec quelques-uns pour une manifestation de solidarité à l'égard de l'Église persécutée. Et il nous était rappelé que les chrétiens dans bien des nations sont persécutés pour le seul fait qu'ils proclament un Christ, seul et unique sauveur. Le Christ fait problème. Le salut qui passe par un seul médiateur, un seul homme qui s'est dit Dieu, fils de Dieu, qui a livré sa vie sur une croix et qui est ressuscité il y a bientôt 2000 ans, ce message pose problème et ici aussi, je vous rassure, de plus en plus. Mais pour nous, est-ce que nous sommes bien conscients que le Christ est l'unique moyen de salut pour toutes celles et ceux qui peuplent non seulement ce continent, mais la terre entière? Alors la prière de l'Église persécutée, c'est Actes 4, 29, « Maintenant, Seigneur, vois comme il nous menace et donne à tes serviteurs la force d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Moi, je pense que c'est une Église persécutée qui a de l'audace, et l'Église à l'occidentale devrait faire preuve d'un même courage. Donne-nous la force, donne-nous la volonté, donne-nous la capacité de prêcher ta parole, de l'annoncer avec sagesse, avec amour, avec équilibre, avec modestie, tout ce que vous voulez, mais aussi avec assurance, avec clarté, avec clarté. Les gens ont besoin d'un sauveur. Est-ce qu'on n'a pas chanté ce matin ? Tous ont besoin d'un sauveur, d'un amour sans limite. Je ne veux pas me faire un solo là, mais on est d'accord, c'est ce qu'on a chanté, non ? On l'a proclamé déjà. Une Église, cinquièmement, qui s'engage à servir les besoins de la société. Alors ça, je peux nous encourager. Dorinda voilà, a lancé ce ministère il y a des décennies déjà ici à l'Escale. Hein, clin d'œil, il y a des capacités de solidarité ici à l'Escale pour les gens qui vous côtoient, qui nous côtoient. Et c'est magnifique. Je crois que nous avons à prendre à cœur ce ministère et encourager Dorinda et son équipe en particulier dans ce rôle. Une Église qui se concentre sur tous ces éléments, mais qui a aussi un regard sur la société extérieure et qui montre son amour. C'est une Église qui s'enracine dans le terreau local, et ce n'est pas une Église qu'on va persécuter facilement. Les Églises qu'on finit par regarder du coin de l'œil en disant bizarre, ceux-là, c'est ceux qu'on ne connaît pas. Et il y a de l'indifférence, de la gêne. On n'aime pas les gens qui ne nous ressemblent pas, surtout quand on les ignore ou quand on est ignoré d'eux. Une Église qui montre son amour, qui tend la main à la société, c'est une Église en général qui est respectée. Pensez à l'armée du salut, qui depuis le fin fond de l'histoire a dit « soupe, savon, salut ». Moi, je crois que l'armée du salut est très respectée. Quand on dit armée du salut, d'ailleurs à l'abbaye, j'ai gagné un membre à la fanfare de l'armée du salut hier soir, parce que ça ne posait pas de problème de venir jouer à l'armée du salut, même dans les prisons, à cette femme qui pourtant partage probablement pas encore la foi de l'Église qui est la nôtre, ou qui est celle de l'armée du salut. Une Église qui a du crédit sur un plan social, c'est une Église qui s'investit dans la société. Et on ne jette pas le caillou facilement au visage de quelqu'un qu'on apprécie, qu'on respecte, à cause de sa bonté, de sa charité ou de son action sociale. Le Christ a agi pour voir la justice triompher. Et hier, c'était très puissant sur la place fédérale. On a dit « basta, ça suffit, que les politiques nous entendent, que les chrétiens soient sauvagement persécutés dans plus de 70 pays du monde, ça n'est pas normal. Que les médias fassent silence, se taisent à longueur d'année sur cette réalité alors qu'ils sont 360 millions, ça n'est pas normal. Nous avons une responsabilité, ici en Suisse, en tant que société, pour voir la justice triompher. Il faut faire entendre notre voix. Une Église autonome et libre de tout pouvoir et du contrôle extérieur. Alors ici, on a passé par le Covid. Certains étaient de ceux qui prétendaient qu'il faille obéir aveuglément à l'État. Et pour d'autres, c'était plutôt la quête de la liberté, hein. Où la liberté, c'est la valeur suprême, l'État ne peut pas marcher sur le terrain de nos libertés. Alors c'est un débat qui a fait un peu rage, je crois que les pasteurs et les églises ont fait vraiment de leur mieux. Moi j'étais assez heureux de ne pas être pasteur dans ces deux dernières années, en charge d'une communauté. Ça m'aurait probablement coûté défier, et je salue à grands coups de chapeau les anciens, Jean-Jacques, Luc, parce que je crois que vous avez vraiment su garder l'Église unie dans ces combats qui sont honorables. Autant nous avons à nous soumettre à l'autorité, prier pour elle, autant nous avons à veiller pour rester un peuple libre, capable de professer notre foi, d'annoncer l'Évangile et de nous réunir en toute liberté. Les chrétiens persécutés savent que ça n'est pas normal lorsqu'on restreint leur possibilité de rencontre, et ils vivent l'Église libre et autonome en clandestin dans bien des pays. L'Église est tout simplement clandestine. Et prêtons attention, j'aimerais pas que nous ayons à nous compromettre à l'avenir, dans les décennies à venir, ou à devoir, ma foi, choisir la clandestinité. Mais le jour où il faut partir en clandestinité pour dire non à un contrôle étatique qui vous dit QR code, pas QR code, vous savez, la puce, elle est là demain, ou dans les 10 ans, on fera quoi? On va se faire pucer, on va se faire tatouer le QR code. Moi, je ne suis pas Luc, je ne suis pas Jean-Jacques, je suis le pasteur qui vient et puis qui fout le bazar. Non, j'espère pas, hein, mais je pose les questions. QR code, pas QR code, demain, l'hiver prochain, dans 10 ans, la puce ou pas la puce? Le tatouage, hein, joli tatouage, tout le monde porte des tatouages, tout le monde est prêt à accueillir le spectre de la bête. C'est bientôt. Mais préparons-nous, réveillons-nous. Est-ce qu'on va dire oui, béni oui, à l'État chéri, d'autant plus qu'on est tellement suisse, docile et gentil, osera-t-on y opposer notre foi, ne pas faire d'embrouille, dire, mais si c'est comme ça, nous, on choisit le message et les leçons de l'Église persécutée, on préfère la liberté plutôt que le contrôle d'une Église qui se corrompt et qui accepte même finalement le contrôle de forces spirituelles qui sont étrangères à l'agneau de Dieu qui lui nous a acquis pour lui et pour lui seul et pour l'éternité. Nous ne sommes pas des marchandises. Une Église qui connaît les forces et les faiblesses de l'opposition, je pense que Luc ne m'en voudra pas d'avoir pris parole de cette manière-là. Je crois connaître ses positions, j'espère que j'embrouille personne. Hein. Je pose les questions et vous décidez. Ok, Jean-Jacques, hein, le groupe ancien, moi, vous me réinvitez pas. Ou oui ou non, c'est... Ah, je ferai avec. Une Église qui connaît les forces et les faiblesses de l'opposition, alors ça, ma foi, ce serait un cours en soi, ce serait d'autres prédications. Mais nous avons à ouvrir les yeux sur les menaces qui planent sur nos vies. La séduction, la convoitise, l'amour de l'argent, l'amour de la facilité, ce petit train-train de plaisance dans nos sociétés où finalement on dit oui à tout et on ne sait plus veiller, prier, écouter, discerner, s'affirmer et dire non. Non à la tentation, non au péché, non à la convoitise, non à ce qui abîme ma vie spirituelle, à ce qui attriste le Saint-Esprit en tant qu'Église et en tant qu'individu. Les moteurs de la persécution, ça c'est un thème intéressant. Peut-être qu'un jour, si vous me réinvitez après tout ce que j'ai osé dire, vous passerez à la casserole avec ce nouveau thème. Quels sont les moteurs de la persécution? On ne les voit pas venir en général. La persécution, hop, elle fait rage, les chrétiens sont abasourdis. Ils n'ont pas vu venir le train de la persécution, alors qu'il a sifflé depuis belle lurette, si on prête oreille. Et là, il y a matière à enseignement pour mieux discerner les temps. Pas nécessairement ici. En Suisse, hein, on n'est pas une église persécutée, que les choses soient dites, mais malgré tout, nous avons à discerner, en tout cas pour la prière de celles et ceux qui sont confrontés à une vraie persécution. Une église qui est audacieuse, prête à témoigner même face à la persécution. Alors on a lu ce texte dans Actes 4, « Seigneur, donne-nous la force d'annoncer ta parole, même face à la persécution, une église qui est audacieuse. Sommes-nous audacieux ? » Vous savez, frère André, qui a fondé Portes Ouvertes, a dit ceci, « Il nous faut être un peuple de courage. » Il parlait de « gâte », c'est plus que le courage, c'est « les tripes à l'air », du courage, de la fierté et des convictions fortes. C'est un homme qui a vu ce qui se passait de l'autre côté du rideau de fer. C'est un homme qui a goûté à la faiblesse, parfois patente, de certains ministres qui ont préféré la corruption, l'entente avec l'État, plutôt que de courageusement défendre la foi de l'Église et de son histoire. Alors, sommes-nous prêts? Sommes-nous audacieux? Sommes-nous prêts à témoigner, même quand il semble que notre message ne fasse plus autorité ou ne fasse plus recette? Une Église qui s'engage à partager les responsabilités, ça va me réconcilier avec Jean-Jacques. En tant que pasteur, on apprécie beaucoup que l'Église serve et que les uns et les autres, nous soyons co-responsables du ministère dans l'Église. Chacun a reçu des dons. C'est peut-être pour ça que Jean-Jacques vous a enseigné là-dessus, pour réveiller en vous la fibre du ministère, la fibre de la co-responsabilité, dire « vous avez quelque chose à offrir au corps. Qu'est-ce ? Mettez-vous, mettons-nous au service les uns des autres. Partageons ensemble la charge. » Elle n'incombe pas au pasteur seul, nous sommes un peuple au service les uns des autres. Et puis finalement, je termine peut-être par ce qui est le plus important, la prière, on y revient encore et toujours. On parlait de la prière au point 1, dans quelle est ma réalité de vie avec le Saint-Esprit au quotidien. Suis-je quelqu'un qui qui accueille la présence de Dieu, qui a du temps pour recevoir sa présence. Est-ce que je lis la parole? Est-ce que je prie? Sans ça, pas de renouveau, pas d'espoir, d'amélioration de nos vies, pas de changement dans nos couples, peu ou pas de bénédiction pour nos enfants. Dans le quotidien, on va juste un peu survivre, hein, comme ici ce matin, on coule, on a chaud, c'est pénible. Voilà, la vie chrétienne, si elle se résume à ça, c'est pas intéressant. Mais la prière transforme nos vies, nos couples, nos familles, notre destinée, notre lieu de travail, nos ambitions. Tout est corrigé, tout est aligné à la volonté de Dieu lorsque nous prions.